3. 3, c'est le nombre dans l'évangile de Saint Matthieu des apparitions en songe de l'ange du Seigneur à Joseph. Nous avons entendu la première dimanche dernier, au quatrième dimanche de l'Avent, quand Joseph devait renoncer à ses projets personnels. Joseph ne craint pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ça, c'était la première. Et nous venons d'entendre les deux suivantes. La deuxième, pour le protéger de Hérode. Hier, nous avons fêté le massacre des saints innocents. Pour échapper à ce massacre, il est exilé avec sa famille en Égypte. Et puis, la troisième apparition en songe a lieu historiquement 3 ans plus tard environ. On peut le calculer suivant la date de la mort de Hérode. Et il rentre en Israël avec un nouveau songe, sans qu'on sache s'il s'agit d'une nouvelle apparition de l'ange, mais un nouveau songe qui fait que ça se fait un petit peu en deux temps. En tout cas, il s'installe à Nazareth, ce qui permet à Jésus de ne pas être appelé plus tard l'Égyptien, s'il avait passé toute son enfance ou sa jeunesse en Égypte, mais le Nazaréen. Le Nazaréen ou Nazoréen ou même encore Naziréen, tout dépend comment on prononce. Il y a un jeu de mots en hébreu parce que Naziréen, ça veut dire le consacré. Trois apparitions en 3 ans. Ça reste raisonnable. Ça reste raisonnable, même si on imagine bien qu'elles ont marqué profondément Joseph. Peut-être a-t-il fait le lien avec son homonyme, le Joseph de l'Ancien Testament, du livre de la Genèse, celui que ses frères appellent, mais pour se moquer de lui, l'homme au songe. Celui qui, justement, est marqué par des songes. En tout cas, ce qu'il faut remarquer, c'est que Joseph obéit à l'ange. Il fait ce que l'ange du Seigneur lui demande. Il prend ses apparitions, et mieux que ses apparitions, il prend ses songes au sérieux. Il prend ses songes au sérieux, comme on savait le faire à l'époque, quand on n'avait pas, comme souvent aujourd'hui, l'esprit envahi, encombré de toutes sortes d'idées, d'images, de toutes sortes de choses, tout ce qui passe son temps à nous envahir dans la vie quotidienne, des idées de plus ou moins exactes, tout ce qui passe dans notre tête. Et en cette fin d'année, je voudrais vous parler aujourd'hui un petit peu d'écologie, qui est quand même un des maîtres mots, sinon de l'année, du moins des années que nous vivons. Si l'écologie signifie le respect des équilibres naturels et de ce qui est vivant, nous avons besoin d'une écologie de vie intérieure, d'une écologie spirituelle. Et ça se passe de façon très concrète, en nous gardant éloignés au moins plusieurs heures par jour des écrans. Et de faire comme nous le faisons le dimanche, mais de le faire tous les jours, venir nous remettre devant le Seigneur pour nettoyer un peu de son esprit. Il n'y a pas plus écologique que la prière. On ne peut pas faire mieux. Les plus grands écologistes, ce sont les priants. Et en cette fin d'année, c'est l'occasion de se débarrasser de beaucoup de choses qui nous encombrent. Pas seulement de profiter des jours de repos pour ranger un peu chez soi, mais de ranger y compris notre esprit. Vous savez que le 31 décembre à Naples, comme dans certaines villes, on jette par la fenêtre tout ce qui est cassé, tous les objets. Il vaut mieux pas se balader dans les rues ce jour-là. Mais ça, c'est pas très écolo, de jeter par la fenêtre tout ce qui est cassé. Mais on pourrait faire ça au moins spirituellement, intellectuellement. Essayer de dépolluer un peu notre esprit de tous ces débris qui flottent. Il n'y a pas, parmi les grandes catastrophes écologiques du temps où nous vivons, il y a certainement nos cerveaux. A contrario, j'ai toujours le souvenir d'un professeur que j'avais eu au séminaire, un jésuite qui était aveugle à cause du diabète, mais qui avait une vie intérieure, un intérieur formidable. L'année où je l'avais eu comme professeur, c'est lui qui avait fait la préface d'une encyclique de Jean-Paul II, qui venait de sortir. Vous savez, les encycliques de Jean-Paul II, c'était costaud. Et lui, comme il était aveugle, on lui avait lu la lettre, l'encyclique, peut-être 2 fois, et il avait ensuite dicté la préface, toute l'introduction et le plan. Vous voyez, s'il avait les idées claires, c'est probablement ce que signifie pour Joseph être un homme juste, être équilibré intérieurement, intellectuellement, spirituellement, avoir les idées claires. Est-ce qu'il serait possible aujourd'hui à un geek moyen, toute personne accro aux écrans, est-ce qu'il serait possible à l'un d'entre nous qui passons notre temps devant les écrans d'avoir une apparition en songe de l'ange du Seigneur? C'est une question à se poser, est-ce que ce serait possible? Ben, en théorie, oui, mais il ne le remarquerait même pas, il ne ferait pas attention. Le prophète, ce n'est pas celui qui a plus de vision qu'un autre. Le prophète, c'est celui qui fait davantage attention, qui les prend au sérieux. De façon très exacte, c'est celui qui est bien disposé. Dire que Joseph était un homme juste, ça veut dire qu'il était bien disposé. S'il vous reste un cadeau de Noël à faire, offrez les sermons catholiques du cardinal Newman, du saint cardinal Newman. C'est sorti l'année dernière aux éditions du Cerf, il y a 650 pages. Un beau cadeau, 29 €, mais ça vaut le coup. Mon jésuite aveugle, quand on lui remettait un devoir, il fallait lui remettre, bien sûr, le devoir écrit pour que quelqu'un puisse lui lire, et puis une cassette à côté. Et c'était un homme délicieux, on lui remettait une enveloppe comme ça, il avait pris ça, il disait « ça a l'air bien ». Voilà ce que c'est que la bienveillance et la bonté. Eh bien, dans un de ses sermons catholiques, justement, Newman dit que l'expression, l'acclamation de Noël, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes de bonne volonté ». Bonne volonté, ça veut dire bien disposé. La bonne volonté, c'est une disposition intérieure. C'est ça, dit Newman, que le Seigneur aime. Le Seigneur, il n'aime pas tant nos sacrifices, nos efforts, nos actes. Il aime la disposition de notre cœur. Le cœur bien disposé. Et ce n'est pas seulement la condition de la foi. C'est ce que Newman explique. Mais c'est aussi celle de l'émotion. Comment pouvoir effectivement ressentir les merveilles du Seigneur? Comment pouvoir s'émerveiller? Eh bien d'abord, il faut les attendre. Il faut les espérer. C'était vrai de Joseph et Marie. C'était de ceux qui attendaient le Messie. Ils étaient disposés à attendre et donc à recevoir. Aujourd'hui, l'homme contemporain, pas très bien disposé, c'est pas tellement qu'il n'est pas croyant, c'est qu'il est indifférent. Il n'est plus capable d'émotion, de compassion, ni d'émerveillement devant les merveilles de Dieu. Nous, croyants, nous voulons être sur ce chemin de foi, nous attendons des signes du Seigneur. Nous attendons de Dieu et nous lui demandons qu'il nous fasse grandir dans la foi. La disposition intérieure. 3, c'est aussi, bien sûr, le nombre des membres de la Sainte Famille, puisque à la naissance de Jésus, le couple de Joseph et Marie est devenu une famille. C'est comme ça qu'on devient une famille, c'est à la naissance de l'enfant. La famille, c'est l'ensemble formé par le père, la mère et l'enfant ou les enfants. Et dans une famille, chacun est unique. Unique. Comme nous disons que Dieu est unique, comme nous disons du Christ qu'il est le Fils unique de Dieu, mais chaque personne est unique, irremplaçable. Sinon, la mort ne nous désolerait pas. Si une personne pouvait être remplacée, nous pourrions supporter, endurer la mort. Ce qui rend la mort d'un proche si atroce, si douloureuse, c'est que justement, chaque personne est irremplaçable. La mort, elle est présente dans les apparitions, dans les songes de Joseph. C'est évident pour la folie de Hérode, ce massacre atroce. C'est vrai pour la deuxième apparition, pour son fils Archélaüs, qui prend la suite exactement dans la même lignée. Mais c'était également vrai pour la première apparition, si Joseph n'avait pas pris chez lui Marie. En cas de répudiation, elle risquait la mort. Joseph est un homme juste, c'est un homme qui est bien disposé, qui est surtout disposé à respecter et à protéger la vie. Nous en avons fait le patron de la bonne mort, et c'est juste, c'est-à-dire de la vie qui est menée jusqu'à son terme naturel, depuis sa conception jusqu'à son terme, c'est-à-dire la naissance au ciel. C'est ça l'écologie. L'écologie, elle n'est pas simplement dans les frontières terrestres. La véritable écologie, elle entre au royaume. Et à tous ceux qui veulent savoir ce que l'écologie veut dire, il faut montrer l'exemple de Joseph dans ses 3 apparitions. Il garde l'enfant et sa mère. Il ne voyage pas pour le plaisir. Il endure pour Dieu la condition du migrant. De retour au pays, il ne s'installe pas là où il aurait voulu, mais là où c'est raisonnable et bon pour sa famille. L'écologie, c'est aussi simple que cela. La protection des petits. Il garde l'enfant et sa mère. Il ne voyage pas pour le plaisir, mais il vit, il est proche de tous les migrants, de toute l'histoire. Et il retourne au pays, mais il ne s'installe pas, il s'installe là où c'est bon pour sa famille. Troisième réflexion, après la bonne disposition de Joseph, cette disposition intérieure, après son respect de la vie, il y a ceci de remarquable dans la Sainte Famille, l'expression est un petit peu brutale, que Joseph est le maillon faible. Dans la Sainte Famille, Jésus est Dieu. Marie, c'est l'Immaculée, pleine de grâce, la seule créature préservée du péché originel. Et Joseph, c'est le plus faible des trois. Le maillon faible est une expression un peu excessive, mais elle ne... moi-même, je suis l'aumônier de la marche de Saint-Joseph à Paris, qui aura lieu le 21 mars pour tous les pères de famille et les hommes qui se réclament de Saint-Joseph. Donc j'ai cette autorisation spéciale de pouvoir le traiter ainsi familièrement, mais de pouvoir reconnaître simplement que dans la Sainte Famille, elle est hiérarchisée de façon inverse à nos représentations humaines. De façon inverse. Puisque le premier, c'est l'enfant. Jésus, le chef de notre foi. Après Dieu, il y a Marie, sa mère, la femme. Et en dernier des trois, l'homme, Joseph. On peut, il est bon de contempler dans la Sainte Famille, la confiance de Dieu qui remet son fils entre les mains de deux créatures humaines, d'un couple, d'un homme et d'une femme, Joseph et Marie. Il est bon de contempler l'humilité du Fils, l'humilité du Christ, qui se soumet à eux. Il leur était soumis. Il est bon de contempler la discrétion, l'humilité de Marie, l'épouse du Saint-Esprit qui se laisse conduire par Joseph. C'est magnifique. Mais le plus édifiant, c'est quand même que ce soit le moins bon, le chef. C'est ça la véritable écologie. C'est justement, ça consiste à apprendre des petits, à se mettre à leur service, les servir, les aimer, plutôt que de chercher à dominer, exploiter ou mépriser. L'écologie ne concerne pas seulement le respect de ce qui est naturel, mais tout autant de ce qui est surnaturel. La confiance que Dieu nous fait en nous confiant la terre, en nous confiant l'univers, et qu'il nous demande de nous faire les uns aux autres. Le respect des autres et de la vie, c'est d'abord un saint état d'esprit. C'est ce que nous pouvons demander particulièrement aujourd'hui, en cette fin d'année pour l'année prochaine, le demander de la Sainte Famille, et de la prendre pas seulement comme un modèle de famille, mais comme un modèle d'écologie.